Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Yves.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous publiez demain chez Flammarion Le Suspendu de Conakry, le premier volume d'une trilogie qui marque votre retour au thriller, un genre que vous avez déjà pratiqué avec bonheur dans Katiba ou encore Le Parfum d'Adam. Vous avez construit également votre succès avec des romans, qu'ils soient historiques ou d'anticipation, des récits, des essais. Pourquoi ce besoin chez vous de toucher ainsi à tous ces genres littéraires ?
Ça dépend un peu du sujet que je veux traiter. C'est-à-dire que là, je voulais un petit peu évoquer des souvenirs que de la période où j'étais ambassadeur en Afrique, ouais. Où j'avais vu pas mal de choses, mais on est tenu par un devoir de réserve. Alors quand on crée un petit personnage et qu'on le fait parler à votre place, d'une certaine manière, on est plus libre.
C'est pratique.
Voilà.
Alors on va prendre le temps, bien sûr, de parler de votre livre, Le Suspendu de Conakry, avec Bernard Lehu. Nous nous pencherons également sur les programmes télé avec Isabelle Morini-Bosque et Olivia Leroy nous livrera les express du jour. Bernard, qui est ce suspendu de Conakry qui donne son titre au thriller de Jean-Christophe Ruffin ?
Alors, un plaisancier sexagénaire en escale à Conakry. Conakry, capitale de la... Monsieur l'ambassadeur.
Guinée,
dans l'ouest de l'Afrique. L'homme, apparemment sans histoire, a été sauvagement tué avant que son corps ne soit suspendu par les pieds au sommet du mât de son voilier. Pourquoi ce meurtre et cette mise en scène macabre ? Et c'est là où intervient votre enquêteur, Aurel, consul à l'ambassade de France. Formidable personnage, une espèce de Columbo des tropiques, anachronique, extravagant, maladroit, mais doté d'un flair exceptionnel et terriblement attachant. Bref, une réussite totale. Je prends le pari qu'il rejoindra au Panthéon du Polar ses aînés célèbres, exceptionnels, genre Sherlock Holmes, Hercule Poirot, pourquoi pas Adamsberg. On n'a qu'une hâte, le retrouver dans la suite de votre trilogie, Jean-Christophe Ruffin. Mais d'où vient, bon sang, d'où vient ce formidable consul Aurel ?
Oui, on se demande d'où il vient. Lui-même se demande d'où il vient, d'ailleurs. Il est né en Roumanie à l'époque de Ceaușescu. Il a été racheté par sa famille qui était à l'ouest. Il a commencé comme pianiste dans des endroits plutôt louche.
Oui. Et des bordels, on peut le dire.
Voilà. Oui, vous avez une liberté sur cette antenne que je ne serais pas permise. Et puis après, il est entré dans la diplomatie. Donc imaginons qu'évidemment, il n'avait pas le feu sacré. C'est fait peut-être partie des rares diplomates. Il n'y en a pas, d'ailleurs, je crois, qui ne travaillent pas. Il faut le dire. Ça n'existe pas. Mais lui, il ne fait pas grand-chose. Il vit dans la nostalgie de l'Europe centrale. Il boit du toqué. Il joue des airs de Kurt Weill sur son piano. Et il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est quand quelque chose se passe et qui lui permettrait de redresser des torts et notamment éventuellement d'innocenter quelqu'un qui serait accusé à tort. Voilà, sa grande affaire chez lui, c'est la justice.
Mais pourquoi lui avez-vous donné des origines roumaines d'ailleurs ? Ça fait partie du charme, bien entendu, et du personnage et du roman. Mais
parce que
c'est Aurel Timeșcu.
Parce qu'il est consul et que, si vous voulez, quand il téléphone et qu'il dit avec son gros accent roumain « je suis consul de France », personne ne le croit et il a un côté, si vous voulez, complètement
surréaliste
et décalé. Mais ouais. Ça correspond aussi tout ça, si vous voulez, tout ce livre et les autres aussi qui suivront sont pleins en fait de souvenirs. Alors je ne dis pas en ce qui concerne ce personnage en particulier, mais des personnages comme ça, on en rencontre beaucoup. Des gens qui sont aux marges d'une carrière, parce qu'on ne peut même pas parler d'une carrière, le pauvre il enchaîne des postes complètement pourris les uns derrière les autres, mais il est dans un placard complet, qui ont des talents, ouais. Des talents et une forme de génie en fait. Et ça on en voit beaucoup.
Alors nous, lecteurs, on s'attache inévitablement à cet Aurel, mais l'auteur, quel rapport entretient-il avec ce type de personnage ? Est-ce qu'on s'attache davantage à un héros récurrent, comme on dit, puisqu'il va revenir dans deux prochains tomes, plutôt qu'au héros d'un seul roman ?
Ça faisait longtemps que je voulais créer un héros récurrent comme ça. Je me souviens d'avoir parlé il y a très longtemps avec Gérard de Villiers, qui faisait SAS, ouais. Et qui m'avait dit, moi, tu sais, je récure depuis très longtemps. il trouvait ça, au bout d'un moment, d'ailleurs, sans doute pénible parce qu'on est enfermé dans un héros récurrent. Moi, j'en suis pas là. Mais j'ai trouvé que le promener comme ça, au gré d'une carrière
chaotique,
le promener dans des endroits tout à fait extravagants du monde, et lui permettre de raconter des choses que j'ai vues, parce que là, par exemple, cette affaire de plaisancier mort dans cette marina, bon, bah, ça fait écho à une affaire que j'ai dû, dont j'ai dû m'occuper, si vous voulez.
Quand vous étiez ambassadeur au Sénégal,
j'étais ambassadeur. Donc, si vous voulez, c'est une manière de mettre en scène des choses vécues, mais de le faire par le biais de ce personnage de fiction. Et évidemment, je n'aurais pas pu révéler les secrets de cette enquête, d'autant qu'on se rend compte assez vite que, en fait, cet homme suspendu à son mât, là, il n'est pas mort comme on le croit, tué de façon simple, de façon crapuleuse. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il a,
n'en fait, dites pas trop. Hein.
Non, j'en dis pas trop, mais je veux dire...
Vous n'allez pas le brider, vous, grand malade, mais malheureux.
Non, mais on voit qu'il y a un arrière-fond, si vous voulez, qui est beaucoup plus riche, qui est en fait toute cette vie, à la fois des ambassades, cette vie tropicale aussi de ces pays dans lesquels il y a bien d'autres affaires qui se nouent et que le livre va permettre de découvrir.
Quel est votre héros de polar favori ?
Alors, moi, je suis un inconditionnel de Maigret depuis très longtemps. Et je crois que j'ai lu à peu près tout Simenon. Mmh. Je trouve que personne ne l'a vraiment dépassé. Qu'il y a une, voilà. Mais maintenant, si on parle plus généralement du roman, au-delà du polar, mais du roman d'espionnage, par exemple, j'aime énormément John le Carré, Smiley, etc. Tous ces personnages internationaux. Parce qu'il y a un petit côté un peu franco-français chez Simenon. Oui. Alors qu'avec le carré, c'est...
Oui, je pense on couvre que la planète.
On couvre la planète.
On marque une pause avant de retrouver Jean-Christophe Ruffin qui publie donc demain Le Suspendu de Conakry. C'est aux éditions Flammarion. A tout de suite, merci d'écouter RTL.
RTL, laissez-vous tenter 9h09.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous sommes toujours en compagnie, avec grand plaisir, de Jean-Christophe Ruffin, à la veille de la parution chez Flammarion de votre nouveau livre, Jean-Christophe Ruffin, Le Suspendu de Conakry, premier volume d'une trilogie policière. Lorsque vous étiez ambassadeur au Sénégal, avez-vous été confronté, alors je ne sais pas si on peut dire à une affaire semblable à celle de votre roman, mais le meurtre d'un expatrié, parce que ça c'est quelque chose de tout à fait spécifique.
Oui, bah bien sûr, c'est même, je dirais, j'avais pas le quotidien, mais en tout cas dans des pays comme des pays d'Afrique de l'Ouest où il y a des fortes communautés françaises, hein, plus de 30 000 Français, il y a énormément d'affaires consulaires, c'est-à-dire pas forcément des meurtres, mais enfin des gens qui se retrouvent dans des situations dramatiques. Ouais. Je trouvais d'ailleurs que c'était la partie presque la plus intéressante du métier diplomatique, parce que le reste, bon, faire des notes politiques, les journalistes font ça très bien à notre place. La partie consulaire, en revanche, personne d'autre ne l'a fait. C'est-à-dire
prendre soin des expatriés.
Exactement, des citoyens français à l'étranger. C'est pour ça que j'ai pris un personnage de consul et non pas d'ambassadeur, parce que le consul, c'est vraiment lui qui est les mains dans le cambouis.
C'est là où on va taper à la porte.
Exactement. Et il a toutes les informations, en fait, d'un policier, d'une certaine façon, s'il veut. Alors, il est obligé de... Il peut pas le dire parce qu'il peut pas faire une enquête officiellement, mais en fait, tout lui est ouvert, donc c'est un personnage très efficace d'une certaine façon.
Alors, on ne va pas trop en dire sur l'intrigue, mais au cœur de cette intrigue, il va être question de drogue. Est-ce que l'Afrique, aujourd'hui, est une plaque tournante du trafic mondial de la drogue ?
Ben oui, ça fait partie justement des choses qui vont se révéler au fil de l'intrigue. C'est qu'on va voir qu'il y a un arrière-fond qui est celui-là, c'est-à-dire que ces voiliers qui se baladent dans les ports et les marinas africaines, 90% d'entre eux sont habités par des gens tout à fait pacifiques, mais il y a aussi évidemment, d'autres qui vont tomber dans des affaires plus compliquées, parce qu'on est sur la route de la Colombie, c'est-à-dire que la cocaïne arrive en Europe par différentes voies. La voie maritime est une des voies principales. Et une fois que ça arrive plus d'ailleurs vers la Guinée-Bissau, hein. Une fois que ça arrive là, ça repart ensuite vers l'Europe par différentes voies, certaines voies maritimes, des voies transsahariennes, des voies aériennes aussi. Voilà. Mais le point névralgique, hein, c'est en effet... ces ports de l'Afrique de l'Ouest.
Alors, ça ne saute pas aux yeux comme ça au premier abord, mais Jean-Christophe Ruffin, est-ce que vous avez quelques points communs avec votre consul Aurel si atypique ?
Ah ben beaucoup,
ah bon,
beaucoup,
parce que
ben, je pense que lui comme moi, d'abord, ne sommes pas des diplomates classiques. Moi, j'ai rempli des fonctions diplomatiques parce que la vie m'a conduit à le faire. Lui, c'est un peu la même chose. Hein. C'est pour se sortir de son rôle de pianiste de bordel, comme vous le disiez. Mais... Donc, c'est pas une vocation véritablement très profonde.
Et vous n'avez jamais joué de piano?
Alors
dans
moi,
des établissements?
Non, ça c'est une différence. Mais donc il y a ce côté, si vous voulez, un peu extérieur, amateur. Puis je trouve que cette capacité, ce personnage à vivre dans le rêve, parce qu'au fond, comment il résout ses intrigues, qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans, c'est justement d'essayer d'imaginer le passé d'un personnage. Et là, par exemple, il va regarder en jouant du piano ce portrait de cet homme qui est mort. Et quand il était enfant, en Roumanie, il y avait toute la partie juive de sa famille qui lui montrait des photos d'enfants qui avaient disparu pendant la guerre. Et il était habitué à regarder ces photos d'enfants pour voir quels adultes ils seraient devenus. Ben là, il fait le contraire. Il regarde cette photo d'adulte et il cherche à trouver dans ces images, comme ça, une profondeur de ce personnage. Ben ça, c'est finalement le rôle du romancier.
Et alors, justement, est-ce que vous concevez, vous, une série comme celle-ci comme une forme de récréation dans votre métier d'écrivain?
Oui, c'est tout à fait à part de ce que je fais d'autre, si vous voulez. Moi, j'ai fait des livres plus historiques, comme vous l'avez mentionné. Il y en a d'ailleurs un, j'ai lu la sortie du film Le Collier Rouge, qui est adapté d'un de mes livres.
On en a parlé hier ici même.
Voilà, et j'étais très ému de voir, je participe au scénario d'ailleurs, de voir ces personnages sur scène. Bon, ça c'est, je dirais, le courant peut-être principal de ce que je fais. Et là, ben, c'est en effet une récréation, comme vous dites, et c'est une manière de raconter des histoires qui me tiennent à cœur et que je vais faire. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a, à part, un petit peu à part, c'est pour ça qu'on l'a présenté différemment et on l'a fait avec un autre label aussi, oui, puisque c'est publié chez Flammarion.
La carrière de diplomate, vous y avez renoncé définitivement, Jean-Christophe Ruffin?
Ben, comme Aurel, c'est-à-dire que on est toujours. Moi, j'ai rempli ces fonctions de façon très intense. Peut-être qu'un jour j'en aurai d'autres, je ne sais pas, mais ça n'est pas de toute façon mon métier principal. Voilà, c'est mon métier principal aujourd'hui, c'est d'écrire des livres en fait.
Bon, moi j'ai quand même toujours l'impression avec vous qu'aucune porte n'est jamais fermée. Alors, nous faisons gagner ce matin le Suspendu de Conakry, dédicacé par Jean-Christophe Ruffin et publié chez Flammarion. Pour ça, il faut répondre à la question que vous pose Bernard.
Eh bien, quel est le prénom de ce fameux consul imaginé par Jean-Christophe Ruffin?
Réponse au 3210. Jean-Christophe Ruffin, vous restez avec nous. Après une nouvelle pause, les programmes télévisés et les express de Laissez-vous tenter.
RTL, Laissez-vous tenter, 9h16.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter,
les express LVT.
Et merci d'écouter la première radio de France, toujours en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. Nos express du jour préparés donc par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
On commence avec un retour sur scène, c'est celui de Marc Lavoine.
Son nouvel album sort le 18 mai prochain, un disque que le chanteur a présenté à quelques privilégiés la semaine dernière. Il en a profité pour annoncer les dates de ses prochains concerts. Vous notez, coup d'envoi 5 octobre à Amiens, ensuite 28 grandes salles jusqu'à la fin de l'année. Un tour de France qui marquera ses retrouvailles avec son public plus de 5 ans après sa dernière tournée.
J'annonce tout d'un coup, je reviens à toi, ça s'appelle album. 5 ans d'absence en solo, j'avais fait ce soulier rouge, et là je reviens avec tout d'un coup l'album, l'annonce pour la scène, c'est très important de partir sur ça. On prévoit une tournée assez longue avec des modules différents de salles, d'abord les grandes, ensuite les petites. Mais là j'ai envie de me mettre en danger tout seul, d'y aller, de remettre mon titre en jeu avec ce disque-là, le 13e. Prendre du temps pour obtenir l'album que je voulais faire exactement. C'est aussi parfois l'énergie du désespoir, c'est aussi l'énergie d'une mélancolie, voire d'une lipémanie de temps en temps, parce que c'est mon caractère d'être mélancolique. Mais l'énergie, c'est l'optimisme. C'est l'énergie de la vie, c'est dire oui à la vie tout le temps, de choisir la vie en permanence. C'est ce que ce disque raconte. Malgré les blessures, malgré les trous qu'on peut avoir dans l'âme, les gens qui vous quittent par exemple, j'ai perdu plusieurs personnes le long de ce disque, mais la vie est là et tant qu'on est en vie, je pense qu'il faut embrasser les gens, leur dire qu'on les aime, leur dire qu'on est là pour ça, pour créer des passerelles entre nous et qu'il faut croire en notre solidarité, il faut croire en ce cercle vertueux.
Je bois un café serré au comptoir en bois, je prends la rue des Canettes. À toi, le passé, les commandeurs, les mots d'autrefois.
Marc Lavoine était avec Steven Bellery.
Alors lui n'avait plus foulé une scène depuis 2015. Apparition surprise de Stromae aux côtés d'Aurel San, le temps d'un morceau.
Oui, on n'avait pas revu Stromae depuis la fin brutale de sa tournée en octobre 2015. Le Belge s'était mis en retrait après des problèmes de santé suite à un traitement anti-paludisme. Eh bien, Aurel San, son ami, a réussi à le faire revenir. Leur duo, ce que vous entendez derrière, c'était vendredi sur la scène du Forest National à Bruxelles. La pluie, c'est un des titres du dernier album d'Aurel San. La fête est finie.
Je connais le bruit d'un pied dans des répétons mouillés. Si je suis parti, c'est pas...
La première version du scénario du prochain Astérix est en cours de finition.
C'est l'équipe des Tuches 1, 2 et 3 qui s'en charge. L'histoire se déroule en Chine et elle n'est pas tirée d'un des albums BD du célèbre petit Gaulois. Le nom du réalisateur n'est pas choisi, ni celui du duo Astérix et Obélix. Mais la piste clavier Depardieu reste quand même à l'étui de tournage en 2019, sortie en 2020.
Que donne le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ?
On peut le dire tous ensemble, tant ce n'est pas une surprise. Le nouveau Joël Dicker, la disparition de Stéphanie Mellin, toujours en tête devant Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre. Et My Absolute Darling, le premier roman d'un jeune américain, Gabriel Talent. A noter que le Grand Prix RTL Lire 2018, Les Rêveurs d'Isabelle Carré réalise l'une des meilleures progressions de la semaine en gagnant 5 places. Isabelle Carré se place 10e. Du côté des essais et des documents, le dictionnaire de ma vie de l'avocat Éric Dupond-Moretti et Dupond-Moretti est numéro 1 des ventes.
Un palmarès complet retrouvé dès demain dans l'Express.
Et puis ça vous intéressera sûrement, Jean-Christophe Ruffin. Je vous donne cette info ce matin, l'adaptation au cinéma de deux gros succès français en librairie. Laetitia Colombani mettra elle-même en scène le film La Tresse, tiré de son roman, avec notamment Juliette Binoche. Et puis c'est Lucie Borloteau qui réalisera Chanson douce, d'après le prix Goncourt 2016 de Leïla Slimani, avec notamment Karine Viard.
Est-ce qu'il y a une information qui a retenu particulièrement votre attention dans ce qu'on vient de donner ?
Oui, ben les dernières là, parce que c'est intéressant de voir les... Enfin, moi j'ai toujours un doute sur les auteurs qui adaptent leurs propres livres. Enfin, il faut
oui,
voir.
Vous pensez qu'il faut confier le bébé ?
Ben, il y a un risque, disons, il y a un risque. Le risque est double d'ailleurs. Le premier, c'est de se planter, bien sûr. Et le deuxième, c'est de, ensuite de passer au scénario et de plus jamais revenir au roman. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'exemples de romanciers qui sont devenus, au fond.
Ah, mais c'est juste votre remarque, j'avais pas
idée. Oui. Non, mais c'est vrai, et qui ne reviennent plus ensuite en arrière. Alors, il y a ceux qui font les deux, comme Pierre Lemaitre, par exemple, qui fait les deux. Il fait des scénarios et des romans, mais c'est assez rare. Et c'est pas facile.
Alors, vous venez d'entendre ce jingle qui annonce les audiences télévisées de la veille, avec Isabelle Morini-Bosque et nos camarades de Médiamétrie. Moi, je sais ce que j'ai regardé.
Pas grand-chose à dire ni à redire. L'audience très éclatée. Clem est en tête avec près de 5 millions de téléspectateurs et 20% du public sur la une. En deuxième position, Le Chalet. Le Polar Noir Savoyard, 3 300 000 personnes étaient devant. 13% des téléspectateurs donc sur la 2. Et en troisième position, Wild sur M6. 2 310 000 téléspectateurs. C'est pas du tout un échec. Moi, j'espérais encore plus. Je trouve que ça méritait mieux. Vous étiez devant ?
J'étais devant.
Ça vous a plu ?
Bah, ça m'a énormément plu. Du coup, je me suis couché à point d'heure. Et ce matin, j'ai pas entendu mon rêve.
Eh bien, nous avons donc passé la soirée ensemble par écran interposé et donc quel W9, bonheur. Prémonition, 1 410 000 téléspectateurs.
Alors, on se projette dans nos programmes de ce soir. Mardi 27 mars, outre les valeurs sûres comme Maison à vendre, ce soir sur M6, on signale au Fou d'Histoire. C'est une nouveauté sur France 2.
Oui, vous comprendrez que ça vaut justement le coup d'en faire toute une histoire quand je vous aurais dit que deux fous du patrimoine, Laurent Deutsch et Stéphane Bern, même si vous ne savez pas la télé, ça peut-être vous intéresser, s'unissent ou plutôt s'opposent pour nous le faire revivre ce soir, ce patrimoine. La parole à Stéphane Bern dont les émissions servent la mission.
Ce que je trouve formidable, c'est que France 2 m'a demandé d'imaginer de nouvelles idées pour populariser l'histoire à la télévision. On a lancé la fabuleuse histoire du restaurant qui a très bien marché. La chaîne en a commandé d'autres. Il y aura très prochainement l'histoire de l'hygiène et de la beauté. Et donc, on a essayé d'imaginer un autre type d'émission grâce à la réalité augmentée. Faire revivre des monuments du patrimoine qui ont disparu, recréés par le miracle de la technique. C'est une sorte de bataille avec Laurent Deutsch, les deux plus grands tchatcheurs d'histoire à la télévision. Et on essaye de promouvoir nos villes. Lui, Paris, moi Marseille, et on va vous révéler des choses que vous n'imaginez pas. Je vous donne juste un exemple. Saviez-vous que pour monter à Notre-Dame-de-la-Garde, eh bien à Marseille, on pouvait prendre au siècle dernier un téléphérique. Ce téléphérique a disparu, et eh bien nous le recréons à la place d'une habitation HLM.
Et je vous jure que c'est bluffant à l'image. C'est également bluffant dès le début quand Laurent Deutsch fait surgir de terre le palais du Trocadéro, construit en 1878, une sorte de crapaud de 80 mètres de haut, 10 de plus que Notre-Dame, avec une coupole de 50 mètres de diamètre, 10 de plus que celle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Avec ses 4600 places, il était absurdement surdimensionné. Mais c'est un autre problème qui aura raison de l'édifice.
Non. C'est pas son look ni son architecture. Hein. Non, en fait, c'est son acoustique.
Ah oui ?
Ouais. Le son était tellement mauvais que très vite, les chefs d'orchestre, les organisateurs de spectacles vont bouder les lieux et le palais va se retrouver déserté, détruit une cinquantaine d'années plus tard.
L'acoustique. Oui. Il en manquait un peu. Je suis quand même très choquée, Stéphane Bern, que vous n'ayez pas imposé la ville de Lyon, vous qui êtes l'un des rares animateurs comblés de France Télévisions.
J'ai supplié pour que Lyon, ma bonne ville de Lyon, ne soit pas oubliée. La prochaine fois, ça sera une battle entre Paris et Lyon. J'ai le sentiment d'être bien traité à France Télévisions. J'ai le sentiment, honnêtement, de faire surtout une chose qui me plaît, c'est de parler d'histoire, de patrimoine et de faire en plus des divertissements. On va me retrouver pour l'Eurovision le samedi 19 mai aux côtés de Julien Bugier pour commenter le mariage du prince Harry d'Angleterre. Voilà, j'ai l'impression d'être bien traité. Tout le monde est très à l'écoute. En même temps, je ne suis pas un garçon capricieux. Je ne demande pas la lune. Je demande simplement à pouvoir continuer mes émissions d'histoire et de patrimoine.
Bah c'est sûr. Et vous savez qui est leur première admiratrice? Julie Depardieu. Alors pas de bol pour la comédienne. Elle est en face sur la 3 ce soir dans un 90 minutes très réussi. Alexandra L. Les enquêtes d'une légiste déjantée qui étudie les morts qu'elle adore pour mieux connaître les vivants. Elle se balade avec des doigts coupés qu'elle a volés au muséum, etc. Alors Julie, vous voulez voir, suivez le guide sur la 2?
Oui. Oui.
Je vous donne quand même 5 phrases pour que vous disiez pourquoi il faut regarder Alexandra L. ce soir sur la 3.
Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est une enquête grisante, menée tambour battant par Alexandra L. avec des moyens qui ne sont pas forcément ce qu'on a déjà vu. Elle a des conclusions très fines sur la façon dont est morte la victime, la personnalité, ses habitudes. Eh bien regardez-le, oh, je suis nulle à ça. Regardez-le, pas juste parce que c'est intéressant.
Voilà. J'aime beaucoup Julie Depardieu, c'est très réussi. En plus, il y a Bernard Yerles, qui est un comédien que j'aime infiniment.
Dans quelques instants, nous disons au revoir à Jean-Christophe Ruffin, dont le suspendu de Conakry, que vous allez pouvoir gagner d'ailleurs, dédicacé, sort aux éditions Flammarion. Vous saurez aussi si vous avez gagné ce premier volume de 3. A tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous vous faisions gagner ce matin le suspendu de Conakry, dédicacé par Jean-Christophe Ruffin et publié chez Flammarion. Pour cela, il fallait répondre à la question que vous a posée tout à l'heure Bernard. Quel est le prénom du consul imaginé par Jean-Christophe Ruffin? Il va répondre lui-même.
Ben, Aurel. Voilà. Aurel Timeshko.
On est heureux de découvrir Aurel, qui fait maintenant partie de nos vies. On attend le deuxième volume, hein, pour
oui,
l'automne, par exemple.
Pour l'automne, oui, à la fin de l'année, oui. Disons, avant la fin de l'année. Il est prêt, en tout cas.
Rendez-vous est pris.
Attendez, parce qu'il y a Julien Courbet qui vient de me glisser. Et pourquoi pas Hardy? C'est une bonne façon. Alors attendez.
C'est Aurel, c'est pas Laurel.
Je suis désolé. Oui,
c'est,
oui,
c'est Aurel, ce n'est pas Laurel.
Oui.
Enfin, vous savez, moi, je suis bon public pour vos imbécilités.
Il y a des fois, je ferais mieux de me taire. Je le reconnais.
Non.
Quasiment tous les jours, d'ailleurs.
Je vous demande de ne pas vous taire. On remercie Jean-Christophe Ruffin d'être venu nous voir ce matin sur RTL.
Merci.
Et on vous souhaite une excellente émission.
Et on lui
émission.
Présente toutes nos excuses. Qu'il ne garde pas cette image-là d'RTL. Merci beaucoup.